Aurélia de Gérard de Nerval.
Enregistré par Christiane Johan.
Seconde partie. Eurydice, Eurydice. Chapitre 1er. Une seconde fois perdue. Tout est fini, tout est passé. C'est moi maintenant qui dois mourir et mourir sans espoir. Qu'est-ce donc que la mort, si c'était le néant? Plût à Dieu, mais Dieu lui-même ne peut faire que la mort soit le néant. Pourquoi donc est-ce la première fois depuis si longtemps que je songe à lui? Le système fatal qui s'était créé dans mon esprit n'admettait pas cette royauté solitaire. Ou plutôt, elle s'absorbait dans la somme des êtres. C'était le dieu de Lucrétius, impuissant et perdu dans son immensité. Elle, pourtant, croyait à Dieu. Et j'ai surpris un jour le nom de Jésus sur ses lèvres. Il en coulait si doucement que j'en ai pleuré. Oh, mon Dieu! Cette larme, elle est séchée depuis si longtemps. Cette larme, mon Dieu, rendez-la moi. Lorsque l'âme flotte incertaine entre la vie et le rêve, entre le désordre de l'esprit et le retour de la froide réflexion, c'est dans la pensée religieuse que l'on doit chercher des secours. Je n'en ai jamais pu trouver dans cette philosophie qui ne nous présente que des maximes d'égoïsme ou tout au plus de réciprocité, une expérience vaine, des doutes amers. Elle lutte contre les douleurs morales en anéantissant la sensibilité. Pareille à la chirurgie, elle ne sait que retrancher l'organe qui fait souffrir. Mais pour nous, nés dans des jours de révolutions et d'orages où toutes les croyances ont été brisées, élevés tout au plus dans cette foi vague qui se contente de quelques pratiques extérieures et dont l'adhésion indifférente est plus coupable peut-être que l'impiété et l'hérésie, il est bien difficile, dès que nous en sentons le besoin, de reconstruire l'édifice mystique dont les innocents et les simples admettent dans leur cœur la ligne toute tracée. L'arbre de science n'est pas l'arbre de vie. Cependant, pouvons-nous rejeter de notre esprit ce que tant de générations intelligentes y ont versé de bon ou de funeste? L'ignorance ne s'apprend pas. J'ai meilleur espoir de la bonté de Dieu. Peut-être touchons-nous à l'époque prédite où la science, ayant accompli son cercle entier de synthèse et d'analyse, de croyance et de négation, pourra s'épurer elle-même et faire jaillir du désordre et des ruines la cité merveilleuse de l'avenir. Il ne faut pas faire si bon marché de la raison humaine que de croire qu'elle gagne quelque chose à s'humilier tout entière, car ce serait accuser sa céleste origine. Dieu appréciera la pureté des intentions, sans doute. Et quel est le père qui se complairait à voir son fils abdiquer devant lui tout raisonnement et toute fierté? L'apôtre qui voulait toucher pour croire n'a pas été maudit pour cela. Qu'ai-je écrit là? Ce sont des blasphèmes. L'humilité chrétienne ne peut parler ainsi. De telles pensées sont loin d'attendrir l'âme. Elles ont sur le front les éclairs d'orgueil de la couronne de Satan. Un pacte avec Dieu lui-même. Ô science, ô vanité! J'avais réuni quelques livres de cabale. Je me plongeais dans cette étude et j'arrivais à me persuader que tout était vrai dans ce qu'avait accumulé là-dessus l'esprit humain pendant des siècles. La conviction que je m'étais formée de l'existence du monde extérieur coïncidait trop bien avec mes lectures pour que je doutasse désormais des révélations du passé. Les dogmes et les rites des diverses religions me paraissaient s'y rapporter de telle sorte que chacune possédait une certaine portion de ces arcanes qui constituaient ses moyens d'expansion et de défense. Ces forces pouvaient s'affaiblir, s'amoindrir et disparaître, ce qui amenait l'envahissement de certaines races par d'autres, nulle ne pouvant être victorieuse ou vaincue que par l'esprit. Toutefois, me disais-je, il est sûr que ces sciences sont mélangées d'erreurs humaines. L'alphabet magique, hiéroglyphe mystérieux, ne nous arrive qu'incomplets et faussés, soit par le temps, soit par ceux-là même qui ont intérêt à notre ignorance. Retrouvons la lettre perdue ou le signe effacé, recomposons la gamme dissonante, et nous prendrons force dans le monde des esprits. C'est ainsi que je croyais percevoir les rapports du monde réel avec le monde des esprits. La terre, ses habitants et leur histoire était le théâtre où venaient s'accomplir les actions physiques qui préparaient l'existence et la situation des êtres immortels attachés à sa destinée. Sans agiter le mystère impénétrable de l'éternité des mondes, ma pensée remonta à l'époque où le soleil, pareil à la plante qui le représente, qui, de sa tête inclinée, suit la révolution de sa marche céleste, semait sur la terre les germes féconds des plantes et des animaux. Ce n'était autre chose que le feu même, qui, étant un composé d'âme,
formulait instinctivement
la demeure commune. L'esprit de l'être Dieu, reproduit et pour ainsi dire reflété sur la terre, devenait le type commun des âmes humaines, dont chacune par suite était à la fois homme et Dieu. Tels furent les Elohim. Quand on se sent malheureux, on songe au malheur des autres. J'avais mis quelque négligence à visiter un de mes amis les plus chers qu'on m'avait dit malade. En me rendant à la maison où il était traité, je me reprochais vivement cette faute. Je fus encore plus désolé lorsque mon ami me raconta qu'il avait été la veille au plus mal. J'entrai dans une chambre d'hospice, blanchie à la chaux. Le soleil découpait des angles joyeux sur les murs et se jouait sur un vase de fleurs qu'une religieuse venait de poser sur la table du malade. C'était presque la cellule d'un anachorète italien. Sa figure, amaigrie, son teint semblable à l'ivoire jauni, relevé par la couleur noire de sa barbe et de ses cheveux, ses yeux illuminés d'un reste de fièvre, peut-être aussi l'arrangement d'un manteau à capuchon jeté sur ses épaules, en faisait pour moi un être à moitié différent de celui que j'avais connu. Ce n'était plus le joyeux compagnon de mes travaux et de mes plaisirs. Il y avait en lui un apôtre. Il me raconta comment il s'était vu, au plus fort des souffrances de son mal, saisi d'un dernier transport qui lui parut être le moment suprême. Aussitôt la douleur avait cessé comme par prodige. Ce qu'il me raconta ensuite est impossible à rendre. Un rêve sublime dans les espaces les plus vagues de l'infini. Une conversation avec un être à la fois différent et participant de lui-même, et à qui, se croyant mort, il demandait où était Dieu. Mais Dieu est partout, lui répondait son esprit. Il est en toi-même et en tous. Il te juge, il t'écoute, il te conseille. C'est toi et moi qui pensons et rêvons ensemble, et nous ne nous sommes jamais quittés. Et nous sommes éternels. Je ne puis citer autre chose de cette conversation que j'ai peut-être mal entendue ou mal comprise. Je sais seulement que l'impression en fut très vive. Je n'ose attribuer à mon ami les conclusions que j'ai peut-être faussement tirées de ses paroles. J'ignore même si le sentiment qui en résulte n'est pas conforme à l'idée chrétienne. Dieu est avec lui, m'écriai-je, mais il n'est plus avec moi. Au malheur! Je l'ai chassé de moi-même, je l'ai menacé, je l'ai maudit. C'était bien lui, ce frère mystique, qui s'éloignait de plus en plus de mon âme et qui m'avertissait en vain. Cet époux préféré, ce roi de gloire, c'est lui qui me juge et me condamne et qui emporte à jamais dans son ciel celle qu'il m'eût donnée et dont je suis indigne, désormais.
Chapitre 2. Je ne puis dépeindre l'abattement où me jetèrent ces idées. Je comprends, me dis-je, j'ai préféré la créature au créateur. J'ai déifié mon amour et j'ai adoré, selon les rites païens, celle dont le dernier soupir a été consacré au Christ. Mais si cette religion dit vrai, Dieu peut me pardonner encore. Il peut me la rendre si je m'humilie devant lui. Peut-être son esprit reviendra-t-il en moi. J'errai dans les rues, au hasard, plein de cette pensée. Un convoi croisa ma marche. Il se dirigeait vers le cimetière où elle avait été ensevelie. J'eus l'idée de m'y rendre en me joignant au cortège. J'ignore, me disais-je, quel est ce mort que l'on conduit à la fosse, mais je sais maintenant que les morts nous voient et nous entendent. Peut-être celui-ci sera-t-il content de se voir suivi d'un frère de douleur, plus triste qu'aucun de ceux qui l'accompagnent. Cette idée me fit verser des larmes, et sans doute on crut que j'étais un des meilleurs amis du défunt. Ô larmes bénies, depuis longtemps votre douceur m'était refusée. Ma tête se dégageait et un rayon d'espoir me guidait encore. Je me sentais la force de prier et j'en jouissais avec transport. Je ne m'informais pas même du nom de celui dont j'avais suivi le cercueil. Le cimetière où j'étais entré m'était sacré à plusieurs titres. trois parents de ma famille maternelle y avaient été ensevelis. Et je ne pouvais aller prier sur leur tombe, car elles avaient été transportées depuis plusieurs années dans une terre éloignée, lieu de leur origine. Je cherchais longtemps la tombe d'Aurélia,
et je ne pus la retrouver.
Les dispositions du cimetière avaient été changées, peut-être aussi ma mémoire était-elle égarée. Il me semblait que ce hasard, cet oubli, ajoutait encore à ma condamnation. Je n'osais pas dire au gardien le nom d'une morte sur laquelle je n'avais religieusement aucun droit. Mais je me souvins que j'avais chez moi l'indication précise de la tombe, et j'y courus, le cœur palpitant, la tête perdue. Je l'ai dit déjà, j'avais entouré mon amour de superstitions bizarres. Dans un petit coffret qui lui avait appartenu, je conservais sa dernière lettre. Oserais-je avouer encore que j'avais fait de ce coffret une sorte de reliquaire qui me rappelait de longs voyages où sa pensée m'avait suivi. Une rose cueillie dans les jardins de Choubra, un morceau de bandelette rapporté d'Égypte, des feuilles de laurier cueillies dans la rivière de Beyrouth, deux petits cristaux dorés, des mosaïques de Sainte-Sophie, un grain de chapelet, que sais-je encore ? Enfin le papier qui m'avait été donné le jour où la tombe fut creusée, afin que je pusse la retrouver. Je rougis, je frémis en dispersant ce fol assemblage. Je pris sur moi les deux papiers. Et au moment de me diriger de nouveau vers le cimetière, je changeai de résolution. « Non, me dis-je, je ne suis pas digne de m'agenouiller sur la tombe d'une chrétienne. N'ajoutons pas une profanation à tant d'autres. » Et pour apaiser l'orage qui grondait dans ma tête, je me rendis à quelques lieues de Paris, dans une petite ville où j'avais passé quelques jours heureux de ma jeunesse, chez de vieux parents, morts depuis. J'avais aimé souvent à y venir voir coucher le soleil près de leur maison. Il y avait là une terrasse ombragée de tilleuls qui rappelait aussi le souvenir de jeunes filles, de parentes, parmi lesquelles j'avais grandi. Une d'elles. Mais, opposer ce vague amour d'enfance à celui qui a dévoré ma jeunesse, y avais-je songé seulement? Je vis le soleil décliner sur la vallée qui s'emplissait de vapeurs et d'ombres. Il disparut, baignant de feu rougeâtre la cime des bois qui bordaient de hautes collines. La plus morne tristesse entra dans mon cœur. J'allai coucher dans une auberge où j'étais connu. L'hôtelier me parla d'un de mes anciens amis, habitant de la ville, qui, à la suite de spéculations malheureuses, s'était tué d'un coup de pistolet. Le sommeil m'apporta des rêves terribles. Je n'en ai conservé qu'un souvenir confus. Je me trouvais dans une salle inconnue et je causais avec quelqu'un du monde extérieur, l'ami dont je viens de parler peut-être. Une glace très haute se trouvait derrière nous. En y jetant par hasard un coup d'œil, il me sembla reconnaître Aurélia. Elle semblait triste et pensive. Et tout à coup, soit qu'elle sortît de la glace, soit que passant dans la salle, elle se fût reflétée un instant auparavant, cette figure douce et chérie se trouva près de moi. Elle me tendit la main, laissa tomber sur moi un regard douloureux et me dit « Nous nous reverrons plus tard, à la maison de ton ami. » En un instant, je me représentais son mariage, la malédiction qui nous séparait, et je me dis « Est-ce possible ? Reviendrait-elle à moi ? M'avez-vous pardonné ? » demandai-je avec des larmes. Mais tout avait disparu. Je me trouvais dans un lieu désert, une âpre montée semée de roches, au milieu des forêts. Une maison qu'il me semblait reconnaître dominait ce pays désolé. J'allais et revenais par des détours inextricables. Fatigué de marcher entre les pierres et les ronces, je cherchais parfois une route plus douce par les sentes du bois. « On m'attend là-bas, » pensais-je. Une certaine heure sonna, je me dis « Il est trop tard. » Des voix me répondirent « Elle est perdue. » Une nuit profonde m'entourait. La maison lointaine brillait comme éclairée pour une fête et pleine d'hôtes arrivés à temps. « Elle est perdue ? » m'écriai-je. « Et pourquoi ?»« Je comprends. Elle a fait un dernier effort pour me sauver. J'ai manqué le moment suprême où le pardon était possible encore. Du haut du ciel, elle pouvait prier pour moi, l'époux divin. Et qu'importe mon salut même, l'abîme a reçu sa proie. Elle est perdue pour moi et pour tous. » Il me semblait la voir comme à la lueur d'un éclair, pâle et mourante, entraînée par de sombres cavaliers. Le cri de douleur et de rage que je poussais en ce moment
me réveilla tout haletant. Mon Dieu, pour elle et pour elle seule, mon Dieu, pardonnez, m'écriai-je en me jetant à genoux. Il faisait jour. Par un mouvement dont il m'est difficile de rendre compte, je résolus aussitôt de détruire les deux papiers que j'avais tirés la veille du coffret. La lettre, hélas, que je relus en la mouillant de larmes, et le papier funèbre qui portait le cachet du cimetière. Retrouver sa tombe maintenant, me disais-je, mais c'était hier qu'il fallait y retourner, et mon rêve fatal n'est que le reflet de ma fatale journée. Chapitre 3. La flamme a dévoré ces reliques d'amour et de mort qui se renouaient aux fibres les plus douloureuses de mon cœur. Je suis allé promener mes peines et mes remords tardifs dans la campagne, cherchant dans la marche et dans la fatigue l'engourdissement de la pensée, la certitude peut-être pour la nuit suivante d'un sommeil moins funeste. Avec cette idée que je m'étais faite du rêve comme ouvrant à l'homme une communication avec le monde des esprits, j'espérais encore. Peut-être Dieu se contenterait-il de ce sacrifice. Ici je m'arrête, il y a trop d'orgueil à prétendre que l'état d'esprit où j'étais fut causé seulement par un souvenir d'amour. Disons plutôt qu'involontairement, j'emparais les remords plus graves d'une vie follement dissipée où le mal avait triomphé bien souvent, et dont je ne reconnaissais les fautes qu'en sentant les coups du malheur. Je ne me trouvais plus digne même de penser à celle que je tourmentais dans sa mort, après l'avoir affligée dans sa vie, n'ayant dû un dernier regard de pardon qu'à sa douce et sainte pitié. La nuit suivante, je ne pus dormir que peu d'instants. Une femme qui avait pris soin de ma jeunesse m'apparut dans le rêve et me fit reproche d'une faute très grave que j'avais commise autrefois. Je la reconnaissais, quoiqu'elle parût beaucoup plus vieille que dans les derniers temps où je l'avais vue. Cela même me faisait songer amèrement que j'avais négligé d'aller la visiter à ses derniers instants. Il me sembla qu'elle me disait « Tu n'as pas pleuré tes vieux parents aussi vivement que tu as pleuré cette femme. Comment peux-tu donc espérer le pardon ?» Le rêve devint confus. Des figures de personnes que j'avais connues en divers temps passaient rapidement devant mes yeux. Elles défilaient, s'éclairant, pâlissant et retombant dans la nuit comme les grains d'un chapelet dont le lien s'est brisé. Je vis ensuite se former vaguement des images plastiques de l'Antiquité qui s'ébauchaient, se fixaient et semblaient représenter des symboles dont je ne saisissais que difficilement l'idée. Seulement, je crus que cela voulait dire « Tout cela était fait pour t'enseigner le secret de la vie, et tu n'as pas compris. » Les religions et les fables, les saints et les poètes s'accordaient à expliquer l'énigme fatale, et tu as mal interprété. Maintenant, il est trop tard. Je me levai, plein de terreur, me disant « C'est mon dernier jour. » À 10 ans d'intervalle, la même idée que j'ai tracée dans la première partie de ce récit me revenait plus positive encore et plus menaçante. Dieu m'avait laissé ce temps pour me repentir, et je n'en avais point profité. Après la visite du convive de Pierre, je m'étais rassis au festin. Chapitre 4. Le sentiment qui résulta pour moi de ces visions et des réflexions qu'elles amenaient pendant mes heures de solitude était si triste que je me sentais comme perdu. Toutes les actions de ma vie m'apparaissaient sous leur côté le plus défavorable, et dans l'espèce d'examen de conscience auquel je me livrais, la mémoire me représentait les faits les plus anciens avec une netteté singulière. Je ne sais quelle fausse honte m'empêcha de me présenter au confessionnal, la crainte peut-être de m'engager dans les dogmes et dans les pratiques d'une religion redoutable, contre certains points de laquelle j'avais conservé des préjugés philosophiques. Mes premières années ont été trop imprégnées des idées issues de la Révolution. Mon éducation a été trop libre, ma vie trop errante, pour que j'accepte facilement un joug qui, sur bien des points, offenserait encore ma raison. Je frémis en songeant quel chrétien je ferais si certains principes empruntés au libre examen des 2 derniers siècles, si l'étude encore des diverses religions ne m'arrêtait sur cette pente. Je n'ai jamais connu ma mère, qui avait voulu suivre mon père aux armées, comme les femmes des anciens Germains. Elle mourut de fièvre et de fatigue dans une froide contrée de l'Allemagne. Mon père lui-même ne put diriger là-dessus mes premières idées.
Le pays où je fus élevé était plein de légendes étranges et de superstitions bizarres. Un de mes oncles, qui eut la plus grande influence sur ma première éducation, s'occupait, pour se distraire, d'antiquités romaines et celtiques. Il trouvait parfois dans son champ ou aux environs des images de dieux et d'empereurs que son admiration de savant me faisait vénérer et dont ses livres m'apprenaient l'histoire. Un certain Mars en bronze doré, une Pallas ou Vénus armée, un Neptune ou une Amphitrite, sculptés au-dessus de la fontaine du hameau, et surtout la bonne grosse figure barbue d'un dieu Pan, souriant à l'entrée d'une grotte parmi les festons de l'Aristoloche et du Lierre, étaient les dieux domestiques et protecteurs de cette retraite. J'avoue qu'ils m'inspiraient alors plus de vénération que les pauvres images chrétiennes de l'Église et les deux saints informes du portail, que certains savants prétendaient être Lésus et le Cernunnos des Gaulois. Embarrassé au milieu de ces divers symboles, je demandai un jour à mon oncle ce que c'était que Dieu. « Dieu, c'est le soleil, » me dit-il. C'était la pensée intime d'un honnête homme qui avait vécu en chrétien toute sa vie, mais qui avait traversé la Révolution, et qui était d'une contrée où plusieurs avaient la même idée de la divinité. Cela n'empêchait pas que les femmes et les enfants n'allassent à l'église, et je dus à une de mes tantes quelques instructions qui me firent comprendre les beautés et les grandeurs du christianisme. Après 1815, un Anglais qui se trouvait dans notre pays me fit apprendre le sermon sur la montagne et me donna un Nouveau Testament. Je ne cite ces détails que pour indiquer les causes d'une certaine irrésolution qui s'est souvent unie chez moi à l'esprit religieux le plus prononcé. Je veux expliquer comment, éloigné longtemps de la vraie route, je m'y suis senti ramené par le souvenir chéri d'une personne morte, et comment le besoin de croire qu'elle existait toujours a fait rentrer dans mon esprit le sentiment précis des diverses vérités que je n'avais pas assez fermement recueillies en mon âme. Le désespoir et le suicide sont le résultat de certaines situations fatales. Pour qui n'a pas foi dans l'immortalité, dans ses peines et dans ses joies? Je croirais avoir fait quelque chose de bon et d'utile en énonçant naïvement la succession des idées par lesquelles j'ai retrouvé le repos et une force nouvelle à opposer au malheur futur de la vie. Les visions qui s'étaient succédées pendant mon sommeil m'avaient réduit à un tel désespoir que je pouvais à peine parler. La société de mes amis ne m'inspirait qu'une distraction vague. Mon esprit, entièrement occupé de ces illusions, se refusait à la moindre conception différente. Je ne pouvais lire et comprendre 10 lignes de suite. Je me disais des plus belles choses. Qu'importe, cela n'existe pas pour moi. Un de mes amis, nommé Georges, entreprit de vaincre ce découragement. Il m'emmenait dans diverses contrées des environs de Paris et consentait à parler seul, tandis que je ne répondais qu'avec quelques phrases décousues. Sa figure expressive et presque cénobitique donna un jour un grand effet à des choses fort éloquentes qu'il trouva contre ces années de scepticisme et de découragement politique et social qui succédèrent à la Révolution de Juillet. J'avais été l'un des jeunes de cette époque, et j'en avais goûté les ardeurs et les amertumes. Un mouvement se fit en moi. Je me dis que de telles leçons ne pouvaient être données sans une intention de la Providence, et qu'un esprit parlait sans doute en lui. Un jour, nous dînions sous une treille dans un petit village des environs de Paris. Une femme vint chanter près de notre table, et je ne sais quoi, dans sa voix usée mais sympathique, me rappela celle d'Aurélia. Je la regardais, ses traits même n'étaient pas sans ressemblance avec ceux que j'avais aimés. On la renvoya et je n'osais la retenir, mais je me disais, qui sait si son esprit n'est pas dans cette femme? Et je me sentis heureux de l'aumône que j'avais faite. Je me dis, j'ai bien mal usé de la vie, mais si les morts pardonnent, c'est sans doute à condition que l'on s'abstiendra à jamais du mal et qu'on réparera tout celui qu'on a fait. Cela se peut-il? Dès ce moment, essayons de ne plus mal faire, et rendons l'équivalent de tout ce que nous pouvons devoir. J'avais un tort récent envers une personne. Ce n'était qu'une négligence, mais je commençais par m'en aller m'excuser. La joie que je reçus de cette réparation me fit un bien extrême. J'avais un motif de vivre et d'agir désormais. Je reprenais intérêt au monde. Des difficultés surgirent. Des événements inexplicables pour moi semblèrent se réunir pour contrarier ma bonne résolution. La situation de mon esprit me rendait impossible l'exécution de travaux convenus. Me croyant bien portant désormais, on devenait plus exigeant. Et comme j'avais renoncé au mensonge, je me trouvais pris en défaut par des gens qui ne craignaient pas d'en user. La masse des réparations à faire m'écrasait en raison de mon impuissance. Des événements politiques agissaient indirectement, tant pour m'affliger que pour m'ôter le moyen de mettre ordre à mes affaires. La mort d'un de mes amis vint compléter ses motifs de découragement. Je revis avec douleur son logis, ses tableaux qu'il m'avait montrés avec joie un mois auparavant. Je passai près de son cercueil au moment où on l'y clouait. Comme il était de mon âge et de mon temps, je me dis « Qu'arriverait-il si je mourais ainsi, tout à coup ?» Le dimanche suivant, je me levai en proie à une douleur morne. J'allai visiter mon père, dont la servante était malade, et qui paraissait avoir de l'humeur. Il voulut aller seul chercher du bois à son grenier, et je ne pus lui rendre que le service de lui tendre une bûche dont il avait besoin. Je sortis consterné. Je rencontrai dans les rues un ami qui voulait m'emmener dîner chez lui pour me distraire un peu. Je refusai, et sans avoir mangé, je me dirigeai vers Montmartre. Le cimetière était fermé, ce que je regardais comme un mauvais présage. Un poète allemand m'avait donné quelques pages à traduire et m'avait avancé une somme sur ce travail. Je pris le chemin de sa maison pour lui rendre l'argent. En tournant la barrière de Clichy, je fus témoin d'une dispute. J'essayais de séparer les combattants, mais je n'y pus réussir. En ce moment, un ouvrier de grande taille passa sur la place même où le combat venait d'avoir lieu, portant sur l'épaule gauche un enfant vêtu d'une robe couleur d'hyacinthe. Je m'imaginais que c'était saint Christophe portant le Christ, et que j'étais condamné pour avoir manqué de force dans la scène qui venait de se passer. À dater de ce moment, j'errais en proie au désespoir dans les terrains vagues qui séparent le faubourg de la barrière. Il était trop tard pour faire la visite que j'avais projetée. Je revins à travers les rues vers le centre de Paris. Vers la rue de la Victoire, je rencontrai un prêtre, et dans le désordre où j'étais, je voulus me confesser à lui. Il me dit qu'il n'était pas de la paroisse et qu'il allait en soirée chez quelqu'un, que si je voulais le consulter le lendemain à Notre-Dame, je n'avais qu'à demander l'abbé Dubois. Désespéré, je me dirigeai en pleurant vers Notre-Dame de Lorette, où j'allais me jeter aux pieds de l'autel de la Vierge, demandant pardon pour mes fautes. Quelque chose en moi me disait « La Vierge est morte, et tes prières sont inutiles ». J'allais me mettre à genoux aux dernières places du cœur, et je fis glisser de mon doigt une bague d'argent dont le chaton portait gravé ces trois mots arabes « Allah, Mohammed, Ali ». Aussitôt, plusieurs bougies s'allumèrent dans le cœur, et l'on commença un office auquel je tentais de m'unir en esprit. Quand on en fut à l'Ave Maria, le prêtre s'interrompit au milieu de l'oraison et recommença sept fois sans que je pusse retrouver dans ma mémoire les paroles suivantes. On termina ensuite la prière et le prêtre fit un discours qui me semblait faire allusion à moi seul. Quand tout fut éteint, je me levai et je sortis, me dirigeant vers les Champs-Élysées. Arrivé sur la place de la Concorde, ma pensée était de me détruire. À plusieurs reprises, je me dirigeais vers la Seine, mais quelque chose m'empêchait d'accomplir mon dessein. Les étoiles brillaient dans le firmament. Tout à coup, il me sembla qu'elles venaient de s'éteindre à la fois comme les bougies que j'avais vues à l'église. Je crus que les temps étaient accomplis et que nous touchions à la fin du monde, annoncée dans l'Apocalypse de saint Jean. Je croyais voir un soleil noir dans le ciel désert et un globe rouge de sang au-dessus des Tuileries. Je me dis, la nuit éternelle commence et elle va être terrible. Que va-t-il arriver quand les hommes s'apercevront qu'il n'y a plus de soleil? Je revins par la rue Saint-Honoré et je plaignais les paysans attardés que je rencontrais. Arrivé vers le Louvre, je marchai jusqu'à la place et là, un spectacle étrange m'attendait. À travers des nuages rapidement chassés par le vent, je vis plusieurs lunes qui passaient avec une grande rapidité. Je pensais que la Terre était sortie de son orbite et qu'elle errait dans le firmament comme un vaisseau dématé, se rapprochant ou s'éloignant des étoiles qui grandissaient ou diminuaient tour à tour. Pendant deux ou trois heures, je contemplais ce désordre
et je finis par me diriger du côté des halles. Les paysans apportaient leurs denrées, et je me disais, quel sera leur étonnement en voyant que la nuit se prolonge. Cependant, les chiens aboyaient çà et là, et les coqs chantaient. Brisé de fatigue, je rentrais chez moi, je me jetais sur mon lit. En m'éveillant, je fus étonné de revoir la lumière. Une sorte de cœur mystérieux arriva à mon oreille. Des voix enfantines répétaient en cœur « Christé, Christé, Christé !» Je pensais que l'on avait réuni dans l'église voisine, Notre-Dame des Victoires, un grand nombre d'enfants pour invoquer le Christ. Mais le Christ n'est plus, me disais-je, ils ne le savent pas encore. L'invocation dura environ une heure. Je me levai enfin et j'allai sous les galeries du palais royal. Je me dis que probablement le soleil avait encore conservé assez de lumière pour éclairer la terre pendant 3 jours, mais qu'il usait de sa propre substance, et en effet, je le trouvais froid et décoloré. J'apaisai ma faim avec un petit gâteau pour me donner la force d'aller jusqu'à la maison du poète allemand. En entrant, je lui dis que tout était fini et qu'il fallait nous préparer à mourir. Il appela sa femme qui me dit « Qu'avez-vous ?»« Je ne sais, lui dis-je, je suis perdu. » Elle envoya chercher un fiacre et une jeune fille me conduisit à la maison du bois. Chapitre 5. Là, mon mal reprit avec diverses alternatives. Au bout d'un mois, j'étais rétabli. Pendant les 2 mois qui suivirent, je repris mes pérégrinations autour de Paris. Le plus long voyage que j'ai fait a été pour visiter la cathédrale de Reims. Peu à peu, je me remis à écrire et je composais une de mes meilleures nouvelles. Toutefois, je l'écrivis péniblement, presque toujours au crayon, sur des feuilles détachées, suivant le hasard de ma rêverie ou de ma promenade. Les corrections m'agitèrent beaucoup.
Peu de jours après l'avoir publié,
je me sentis pris d'une insomnie persistante. J'allais me promener toute la nuit sur la colline de Montmartre et y voir le lever du soleil. Je causais longuement avec les paysans et les ouvriers. Dans d'autres moments, je me dirigeais vers les halles. Une nuit, j'allais souper dans un café du boulevard et je m'amusais à jeter en l'air des pièces d'or et d'argent. J'allais ensuite à la halle et je me disputais avec un inconnu à qui je donnais un rude soufflet. Je ne sais comment cela n'eut aucune suite. À une certaine heure, entendant sonner l'horloge de Saint-Eustache, je me pris à penser aux luttes des bourguignons et des armagnacs, et je croyais voir s'élever autour de moi les fantômes des combattants de cette époque. Je me pris de querelle avec un facteur qui portait sur sa poitrine une plaque d'argent et que je disais être le duc Jean de Bourgogne. Je voulais l'empêcher d'entrer dans un cabaret. Par une singularité que je ne m'explique pas, voyant que je le menaçais de mort, son visage se couvrit de larmes. Je me sentis attendri et je le laissai passer. Je me dirigeai vers les Tuileries, qui étaient fermées, et suivis la ligne des quais. Je montai ensuite au Luxembourg, puis je revins déjeuner avec un de mes amis. Ensuite, j'allai vers Saint-Eustache, où je m'agenouillai pieusement à l'autel de la Vierge, en pensant à ma mère. Les pleurs que je versais détendirent mon âme, et en sortant de l'église, j'achetai un anneau d'argent. De là, j'allai rendre visite à mon père, chez lequel je laissai un bouquet de marguerites, car il était absent. J'allai de là au jardin des plantes, il y avait beaucoup de monde, et je restai quelque temps à regarder l'hippopotame qui se baignait dans un bassin. J'allai ensuite visiter les galeries d'ostéologie. La vue des monstres qu'elle renferme me fit penser au déluge, et lorsque je sortis, une averse épouvantable tombait dans le jardin. Je me dis, quel malheur! Toutes ces femmes, tous ces enfants vont se trouver mouillés. Puis je me dis, mais c'est plus encore. C'est le véritable déluge qui commence. L'eau s'élevait dans les rues voisines. Je descendis en courant la rue Saint-Victor, et dans l'idée d'arrêter ce que je croyais l'inondation universelle, je jetai à l'endroit le plus profond l'anneau que j'avais acheté à Saint-Eustache. Vers le même moment, l'orage s'apaisa, et un rayon de soleil commença à briller. L'espoir rentra dans mon âme. J'avais rendez-vous à 4 heures chez mon ami Georges. Je me dirigeais vers sa demeure. En passant devant un marchand de curiosités, j'achetai 2 écrans de velours couverts de figures hiéroglyphiques. Il me sembla que c'était la consécration du pardon des cieux. J'arrivai chez Georges à l'heure précise et je lui confiai mon espoir. J'étais mouillé et fatigué. Je changeai de vêtements et me couchai sur son lit. Pendant mon sommeil, j'eus une vision merveilleuse. Il me semblait que la déesse m'apparaissait, me disant « Je suis la même que Marie, la même que ta mère, la même aussi que sous toutes les formes tu as toujours aimé. À chacune de tes épreuves, j'ai quitté l'un des masques dont je voile mes traits, et bientôt tu me verras, tel que je suis. » Un verger délicieux sortait des nuages derrière elle, une lumière douce et pénétrante éclairait ce paradis, et cependant je n'entendais que sa voix, mais je me sentais plongée dans une ivresse charmante. Je m'éveillais peu de temps après, et je dis à Georges, « Sortons. » Pendant que nous traversions le pont des Arts, je lui expliquais les migrations des âmes, et je lui disais, « Il me semble que ce soir, j'ai en moi l'âme de Napoléon qui m'inspire et me commande de grandes choses. » Dans la rue du Coq, j'achetais un chapeau, et pendant que Georges recevait la monnaie de la pièce d'or que j'avais jetée sur le comptoir, je continuais ma route et j'arrivais aux galeries du Palais-Royal. Là, il me sembla que tout le monde me regardait. Une idée persistante s'était logée dans mon esprit, c'est qu'il n'y avait plus de mort. Je parcourais la galerie de foi en disant « J'ai fait une faute » et je ne pouvais découvrir laquelle en consultant ma mémoire que je croyais être celle de Napoléon. « Il y a quelque chose que je n'ai point payé par ici. » J'entrai au café de foi dans cette idée et je crus reconnaître dans un des habitués le père Bertin des débats. Ensuite, je traversai le jardin et je pris quelque intérêt à voir les rondes des petites filles. De là, je sortis des galeries et je me dirigeai vers la rue Saint-Honoré. J'entrai dans une boutique pour acheter un cigare et quand je sortis, la foule était si compacte que je faillis être étouffée. Trois de mes amis me dégagèrent en répondant de moi et me firent entrer dans un café pendant que l'un d'eux allait chercher un fiacre. On me conduisit à l'hospice de la Charité. Pendant la nuit, le délire augmenta, surtout le matin, lorsque je m'aperçus que j'étais attaché. Je parvins à me débarrasser de la camisole de force et vers le matin, je me promenais dans les salles. L'idée que j'étais devenu semblable à un dieu et que j'avais le pouvoir de guérir me fit imposer les mains à quelques malades, et, m'approchant d'une statue de la Vierge, j'enlevai la couronne de fleurs artificielles pour appuyer le pouvoir que je me croyais. Je marchais à grands pas, parlant avec animation de l'ignorance des hommes qui croyaient pouvoir guérir avec la science seule, et voyant sur la table un flacon d'éther, je l'avalai d'une gorgée. Un interne d'une figure que je comparais à celle des anges voulut m'arrêter, mais la force nerveuse me soutenait, et prêt à le renverser, je m'arrêtais, lui disant qu'il ne comprenait pas quelle était ma mission. Des médecins vinrent alors, et je continuai mes discours sur l'impuissance de leur art. Puis je descendis l'escalier, bien que n'ayant point de chaussures. Arrivé devant un parterre, j'y entrai, et je cueillis des fleurs en me promenant sur le gazon. Un de mes amis était revenu pour me chercher. Je sortis alors du parterre, et pendant que je lui parlais, on me jeta sur les épaules une camisole de force. Puis on me fit monter dans un fiacre, et je fus conduit à une maison de santé située hors de Paris. Je compris, en me voyant parmi les aliénés, que tout n'avait été pour moi qu'illusion jusque-là. Toutefois, les promesses que j'attribuais à la déesse Isis me semblaient se réaliser par une série d'épreuves que j'étais destinée à subir. Je les acceptais donc avec résignation. La partie de la maison où je me trouvais donnait sur un vaste promenoir, ombragé de noyers. Dans un angle se trouvait une petite hutte où l'un des prisonniers se promenait en cercle tout le jour. D'autres se bornaient, comme moi, à parcourir le terre-plein ou la terrasse, bordée d'un talus de gazon. Sur un mur situé au couchant étaient tracées des figures, dont l'une représentait la forme de la lune avec des yeux et une bouche tracées géométriquement. Sur cette figure, on n'avait pas une sorte de masque. Le mur de gauche présentait divers dessins de profil, dont l'un figurait une sorte d'idole japonaise. Plus loin, une tête de mort était creusée dans le plâtre. Sur la face opposée, deux pierres de taille avaient été sculptées par quelqu'un des hôtes du jardin et représentaient de petits mascarons assez bien rendus. Deux portes donnaient sur des caves, et je m'imaginais que c'étaient des voies souterraines pareilles à celles que j'avais vues à l'entrée des pyramides. Chapitre 6. Je m'imaginais d'abord que les personnes réunies dans ce jardin avaient toutes quelque influence sur les astres, et que celui qui tournait sans cesse dans le même cercle y réglait la marche du soleil. Un vieillard que l'on amenait à certaine heure du jour
et qui faisait des nœuds en consultant sa montre, m'apparaissait comme chargée de constater la marche des heures. Je m'attribuais à moi-même une influence sur la marche de la lune, et je crus que cet astre avait reçu un coup de foudre du Tout-Puissant, qui avait tracé sur sa face l'empreinte du masque que j'avais remarqué. J'attribuais un sens mystique aux conversations des gardiens et à celles de mes compagnons. Il me semblait qu'ils étaient les représentants de toutes les races de la terre, et qu'il s'agissait entre nous de fixer à nouveau la marche des astres et de donner un développement plus grand au système. Une erreur s'était glissée, selon moi, dans la combinaison générale des nombres, et de là venaient tous les maux de l'humanité. Je croyais encore que les esprits célestes avaient pris des formes humaines et assistaient à ce congrès général tout en paraissant occupés de soins vulgaires. Mon rôle me semblait être de rétablir l'harmonie universelle par l'art kabbalistique et de chercher une solution en évoquant les forces occultes des diverses religions. Outre le promenoir, nous avions encore une salle dont les vitres rayées perpendiculairement donnaient sur un horizon de verdure. En regardant derrière ces vitres la ligne des bâtiments extérieurs, je voyais se découper la façade et les fenêtres en 1000 pavillons ornés d'arabesques et surmontés de découpures et d'aiguilles qui me rappelaient les kiosques impériaux bordant le Bosphore. Cela conduisit naturellement ma pensée aux préoccupations orientales. Vers 2 heures, on me mit au bain et je me crus servi par les Valkyries, filles d'Odin, qui voulaient m'élever à l'immortalité en dépouillant peu à peu mon corps de ce qu'il avait d'impur. Je me promenais le soir plein de sérénité aux rayons de la lune, et, en levant les yeux vers les arbres, il me semblait que les feuilles se roulaient, capricieusement, de manière à former des images de cavaliers et de dames portées par des chevaux caparaçonnés. C'était pour moi les figures triomphantes des aïeux. Cette pensée me conduisit à celle qu'il y avait une vaste conspiration de tous les êtres animés pour rétablir le monde dans son harmonie première, et que les communications avaient lieu par le magnétisme des astres, qu'une chaîne non interrompue liait autour de la terre les intelligences dévouées à cette communication générale, et les chants, les danses, les regards, aimantés de proche en proche, traduisaient la même aspiration. La lune était pour moi le refuge des âmes fraternelles, qui, délivrées de leur corps mortel, travaillaient plus librement à la régénération de l'univers. Pour moi, déjà, le temps de chaque journée semblait augmenter de 2 heures, de sorte qu'en me levant aux heures fixées par les horloges de la maison, je ne faisais que me promener dans l'empire des ombres. Les compagnons qui m'entouraient me semblaient endormis et pareils au spectre du Tartare, jusqu'à l'heure où pour moi se levait le soleil. Alors je saluais cet astre par une prière et ma vie réelle commençait. Du moment que je me fus assuré de ce point que j'étais soumis aux épreuves de l'initiation sacrée, une force invincible entra dans mon esprit. Je me jugeais un héros vivant sous le regard des dieux. Tout dans la nature prenait des aspects nouveaux, et des voix secrètes sortaient de la plante, de l'arbre, des animaux, des plus humbles insectes, pour m'avertir et m'encourager. Le langage de mes compagnons avait des tours mystérieux dont je comprenais le sens. Les objets sans forme et sans vie se prêtaient eux-mêmes au calcul de mon esprit. Des combinaisons de cailloux, des figures d'angles, de fentes ou d'ouvertures, des découpures de feuilles, des couleurs, des odeurs et des sons, je voyais ressortir des harmonies jusqu'alors inconnues. Comment, me disais-je, ai-je pu exister si longtemps hors de la nature et sans m'identifier à elle? Tout vit, tout agit, tout se correspond. Les rayons magnétiques émanés de moi-même ou des autres traversent sans obstacle la chaîne infinie des choses créées. C'est un réseau transparent qui couvre le monde et dont les fils déliés se communiquent de proche en proche aux planètes et aux étoiles. Captif en ce moment sur la terre, je m'entretiens avec le cœur des astres qui prend part à mes joies et à mes douleurs. Aussitôt je frémis en songeant que ce mystère même pouvait être surpris. Si l'électricité, me dis-je, qui est le magnétisme des corps physiques, peut subir une direction qui lui impose des lois, à plus forte raison les esprits hostiles et tyranniques peuvent asservir les intelligences et se servir de leurs forces divisées dans un but de domination. C'est ainsi que les dieux antiques ont été vaincus et asservis par des dieux nouveaux. C'est ainsi, me dis-je encore, en consultant mes souvenirs du monde ancien, que les nécromants dominaient des peuples entiers, dont les générations se succédaient, captives, sous leur sceptre éternel. Oh malheur, la mort elle-même ne peut les affranchir, car nous revivons dans nos fils comme nous avons vécu dans nos pères. Et la science impitoyable de nos ennemis sait nous reconnaître partout. L'heure de notre naissance, le point de la terre où nous paraissons, le premier geste, le nom de la chambre, et toutes ces consécrations et tous ces rites qu'on nous impose, tout cela établit une série heureuse ou fatale d'où l'avenir dépend tout entier. Mais si déjà cela est terrible selon les seuls calculs humains, comprenez ce que cela doit être en se rattachant aux formules mystérieuses qui établissent l'ordre des mondes. On l'a dit justement, rien n'est indifférent, rien n'est impuissant dans l'univers. Un atome peut tout dissoudre, un atome peut tout sauver. Oh, terreur, voilà l'éternelle distinction du bon et du mauvais. Mon âme est-elle la molécule indestructible, le globule qu'un peu d'air gonfle, mais qui retrouve sa place dans la nature, ou ce vide même, image du néant qui disparaît dans l'immensité? Serait-elle encore la parcelle fatale destinée à subir, sous toutes ces transformations, les vengeances des êtres puissants? Je me vis amené ainsi à me demander compte de ma vie, et même de mes existences antérieures. En me prouvant que j'étais bon, je me prouvais que j'avais dû toujours l'être. Et si j'avais été mauvais, me dis-je, ma vie actuelle ne sera-t-elle pas une suffisante expiation? Cette pensée me rassura, mais ne m'ôta pas la crainte d'être à jamais classé parmi les malheureux. Je me sentais plongé dans une eau froide, et une eau plus froide encore ruisselait sur mon front. Je reportai ma pensée à l'éternelle Isis, la mère et l'épouse sacrée. Toutes mes aspirations, toutes mes prières se confondaient dans ce nom magique. Je me sentais revivre en elle, et parfois elle m'apparaissait sous la figure de la Vénus antique, parfois aussi sous les traits de la Vierge des chrétiens. La nuit me ramena plus distinctement cette apparition chérie, et pourtant je me disais, que peut-elle, vaincue, opprimée peut-être, pour ses pauvres enfants? Pâle et déchiré, le croissant de la lune s'amincissait tous les soirs et allait bientôt disparaître. Peut-être ne devions-nous plus le revoir au ciel. Cependant, il me semblait que cet astre était le refuge de toutes les âmes sœurs de la mienne, et je le voyais peuplé d'ombres plaintives destinées à renaître, un jour, sur la terre. Ma chambre est à l'extrémité d'un corridor habitée d'un côté par les fous et de l'autre par les domestiques de la maison. Elle a seule le privilège d'une fenêtre percée du côté de la cour, plantée d'arbres, qui sert de promenoir pendant la journée. Mes regards s'arrêtent avec plaisir sur un noyer touffu et sur deux mûriers de la Chine. Au-dessus, l'on aperçoit vaguement une rue assez fréquentée, à travers des treillages peints en vert. Au couchant, l'horizon s'élargit. C'est comme un hameau aux fenêtres revêtues de verdure ou embarrassées de cages, de loques qui sèchent, et d'où l'on voit sortir par instant quelques profils de jeunes ou vieilles ménagères, quelques têtes roses d'enfants. On crie, on chante, on rit aux éclats, c'est gai ou triste à entendre selon les heures et selon les impressions. J'ai trouvé là tous les débris de mes diverses fortunes, les restes confus de plusieurs mobiliers dispersés ou revendu depuis 20 ans. C'est un capharnaüm comme celui du docteur Faust, une table antique à trépied aux têtes d'aigle, une console soutenue par un sphinx ailé, une commode du XVIIe siècle, une bibliothèque du XVIIIe, un lit du même temps dont le baldaquin à ciel ovale est revêtu de lampasse rouge. Mais on a pu dresser ce dernier. Une étagère rustique chargée de faïence et de porcelaine de Sèvres, assez endommagés, la plupart, un narguilé rapporté de Constantinople, une grande coupe d'albâtre, un vase de cristal, des panneaux de boiserie provenant de la démolition d'une vieille maison que j'avais habitée sur l'emplacement du Louvre, et couverts de peintures mythologiques exécutées par des amis aujourd'hui célèbres, deux grandes toiles dans le goût de Prudhon, représentant la muse de l'histoire et celle de la comédie, je me suis plu, pendant quelques jours, à ranger tout cela. À créer, dans la mansarde étroite, un ensemble bizarre qui tient du palais et de la chaumière, et qui résume assez bien mon existence errante. J'ai suspendu au-dessus de mon lit mes vêtements arabes, mes deux cachemires industrieusement reprisés, une gourde de pèlerin, un carnier de chasse. Au-dessus de la bibliothèque s'étale un vaste plan du Caire. Une console de bambou, dressée à mon chevet, supporte un plateau de l'Inde vernissé où je puis disposer mes ustensiles de toilette. J'ai retrouvé avec joie ces humbles restes de mes années alternatives de fortune et de misère, où se rattachaient tous les souvenirs de ma vie. On avait seulement mis à part un petit tableau sur cuivre, dans le goût du Corrège, représentant Vénus et l'amour, des trumeaux de chasseresses et de satyres, et une flèche que j'avais conservée en mémoire des compagnies de l'Arc du Valois, dont j'avais fait partie dans ma jeunesse. Les armes étaient vendues depuis les lois nouvelles. En somme, je retrouvais là à peu près tout ce que j'avais possédé en dernier lieu. Mes livres, amas bizarres de la science de tous les temps, histoire, voyage, religion, cabale, astrologie à réjouir les ombres de Pic de la Mirandole, du sage Mercius et de Nicolas de Cusa, la tour de Babel en 200 volumes, on m'avait laissé tout cela. Il y avait de quoi rendre fou un sage. Tâchons qu'il y ait aussi de quoi rendre sage un fou. Avec quelle délice j'ai pu classer dans mes tiroirs l'amas de mes notes et de mes correspondances intimes ou publiques, obscures ou illustres, comme les a faites le hasard des rencontres ou des pays lointains que j'ai parcourus. Dans des rouleaux mieux enveloppés que les autres, je retrouve des lettres arabes, des reliques du Caire et de Stamboul. Oh bonheur, oh tristesse mortelle, ces caractères jaunis, ces brouillons effacés, ces lettres à demi froissées, c'est le trésor de mon seul amour. Relisons. Bien des lettres manquent, bien d'autres sont déchirées ou raturées. Voici ce que je retrouve. Une nuit, je parlais et chantais dans une sorte d'extase. Un des servants de la maison vint me chercher dans ma cellule et me fit descendre à une chambre du rez-de-chaussée où il m'enferma. Je continuais mon rêve et, quoique debout, je me croyais enfermé dans une sorte de kiosque oriental. J'en sondais tous les angles et je vis qu'il était octogone. Un divan régnait autour des murs et il me semblait que ces derniers étaient formés d'une glace épaisse, au-delà de laquelle je voyais briller des trésors, des châles et des tapisseries. Un paysage éclairé par la lune m'apparaissait au travers des treillages de la porte, et il me semblait reconnaître la figure des troncs d'arbres et des rochers. J'avais déjà séjourné là, dans quelque autre existence, et je croyais reconnaître les profondes grottes d'Elora. Peu à peu, un jour bleuâtre pénétra dans le kiosque et y fit apparaître des images bizarres. Je crus alors me retrouver au milieu d'un vaste charnier, où l'histoire universelle était écrite en traits de sang. Le corps d'une femme gigantesque était peint en face de moi. Seulement, ses diverses parties étaient tranchées comme par le sabre. D'autres femmes de races diverses et dont les corps dominaient de plus en plus présentaient sur les autres murs un fouillis sanglant de membres et de têtes. Depuis les impératrices et les reines jusqu'aux plus humbles paysannes. C'était l'histoire de tous les crimes, et il suffisait de fixer les yeux sur tel ou tel point pour voir s'y dessiner une représentation tragique. Voilà, me disais-je, ce qu'a produit la puissance déférée aux hommes. Ils ont peu à peu détruit et tranché en mille morceaux le type éternel de la beauté, si bien que les races perdent de plus en plus en force et en perfection. Et je voyais, en effet, sur une ligne d'ombre qui se faufilait par un des jours de la porte, la génération descendante des races de l'avenir. Je fus enfin arraché à cette sombre contemplation. La figure bonne et compatissante de mon excellent médecin me rendit au monde des vivants. Il me fit assister à un spectacle qui m'intéressa vivement. Parmi les malades se trouvait un jeune homme, ancien soldat d'Afrique, qui depuis 6 semaines se refusait à prendre de la nourriture. Au moyen d'un long tuyau de caoutchouc introduit dans une narine, on lui faisait couler dans l'estomac une assez grande quantité de semoule ou de chocolat. Ce spectacle m'impressionna vivement. Abandonné jusque-là au cercle monotone de mes sensations ou de mes souffrances morales, je rencontrais un être indéfinissable, taciturne et patient, assis comme un sphinx aux portes suprêmes de l'existence. Je me pris à l'aimer à cause de son malheur et de son abandon, et je me sentis relevé par cette sympathie et par cette pitié. Il me semblait placé ainsi entre la mort et la vie comme un interprète sublime, comme un confesseur prédestiné à entendre ces secrets de l'âme que la parole n'oserait transmettre ou ne réussirait pas à rendre. C'était l'oreille de Dieu, sans le mélange de la pensée d'un autre. Je passais des heures entières à m'examiner mentalement, la tête penchée sur la sienne et lui tenant les mains. Il me semblait qu'un certain magnétisme réunissait nos deux esprits, et je me sentis ravi quand la première fois une parole sortit de sa bouche. On n'en voulait rien croire, et j'attribuais à mon ardente volonté ce commencement de guérison. Cette nuit-là, j'eus un rêve délicieux, le premier depuis bien longtemps. J'étais dans une tour si profonde du côté de la terre et si haute du côté du ciel que toute mon existence semblait devoir se consumer à monter et à descendre. Déjà mes forces s'étaient épuisées, et j'allais manquer de courage quand une porte latérale vint à s'ouvrir. Un esprit se présente et me dit « Viens, mon frère ». Je ne sais pourquoi il me vint à l'idée qu'il s'appelait Saturnin. Il avait les traits du pauvre malade, mais transfigurés et intelligents. Nous étions dans une campagne éclairée des feux des étoiles. Nous nous arrêtâmes à contempler ce spectacle, et l'esprit étendit sa main sur mon front, comme je l'avais fait la veille, en cherchant à magnétiser mon compagnon. Aussitôt, une des étoiles que je voyais au ciel se mit à grandir, et la divinité de mes rêves m'apparut, souriante, dans un costume presque indien, tel que je l'avais vu autrefois. Elle marcha entre nous deux, et les prés verdissaient. Les fleurs et les feuillages s'élevaient de terre sur la trace de ses pas. Elle me dit « L'épreuve à laquelle tu étais soumis est venue à son terme. Ces escaliers sans nombre que tu te fatiguais à descendre ou à gravir étaient les liens mêmes des anciennes illusions qui embarrassaient ta pensée. Et maintenant, rappelle-toi le jour où tu as imploré la Vierge Sainte et, où la croyant morte, le délire s'est emparé de ton esprit. » Il fallait que ton vœu lui fût porté par une âme simple et dégagée des liens de la terre. Celle-là s'est rencontrée près de toi, et c'est pourquoi il m'est permis à moi-même de venir et de t'encourager. La joie que ce rêve répandit dans mon esprit me procura un réveil délicieux. Le jour commençait à poindre, je voulus avoir un signe matériel de l'apparition qui m'avait consolé, et j'écrivis sur le mur ces mots « Tu m'as visité cette nuit ». Chapitre 7. J'inscris ici, sous le titre de « Mémorable », les impressions de plusieurs rêves qui suivirent celui que je viens de rapporter. Sur un pic élancé de l'Auvergne a retenti la chanson des pâtres. « Pauvre Marie, reine des cieux, c'est à toi qu'il s'adresse pieusement. » Cette mélodie rustique a frappé l'oreille des corribantes. Ils sortent, en chantant à leur tour, des grottes secrètes où l'amour leur fit des abris. Hosanna, paix à la terre et gloire aux cieux. Sur les montagnes de l'Himalaya, une petite fleur est née. Ne m'oubliez pas. Le regard chatoyant d'une étoile s'est fixé un instant sur elle et une réponse s'est fait entendre dans un doux langage étranger. Mios Otis. Une perle d'argent brillait dans le sable. Une perle d'or étincelait au ciel. Le monde était créé. Chastes amours, divin soupir, enflammez la sainte montagne, car vous avez des frères dans les vallées et des sœurs timides qui se dérobent au sein des bois. Bosquets embaumés de paphos, vous ne valez pas ces retraites où l'on respire à plein poumon l'air vivifiant de la patrie. Là-haut, sur les montagnes, le monde y vit content. Le rossignol sauvage fait mon contentement. Oh, que ma grande amie est belle! Elle est si grande qu'elle pardonne au monde. Et si bonne qu'elle m'a pardonné. L'autre nuit, elle était couchée, je ne sais dans quel palais, et je ne pouvais la rejoindre. Mon cheval, alezan brûlé, se dérobait sous moi. Les rênes brisées flottaient sur sa croupe en sueur. Il me fallut de grands efforts pour l'empêcher de se coucher à terre. Cette nuit, le bon Saturnin m'est venu en aide, et ma grande amie a pris place à mes côtés sur sa cavale blanche caparaçonnée d'argent. Elle m'a dit « Courage, frère, car c'est la dernière étape. » Et ses grands yeux dévoraient l'espace, et elle faisait voler dans l'air sa longue chevelure imprégnée des parfums de l'Yémen. Je reconnus les traits divins de... Nous volions au triomphe, et nos ennemis étaient à nos pieds. La huppe messagère nous guidait au plus haut des cieux, et l'arc de lumière éclatait dans les mains divines d'Apollon. Le corps enchanté d'Adonis résonnait à travers les bois. Ô mort, où est ta victoire, puisque le Messie vainqueur chevauchait entre nous deux? Sa robe était d'hyacinthe soufrée, et ses poignets, ainsi que les chevilles de ses pieds, étincelaient de diamants et de rubis. Quand sa houssine légère toucha la porte de nacre de la Jérusalem nouvelle, nous fûmes tous les trois inondés de lumière. C'est alors que je suis descendu parmi les hommes pour leur annoncer l'heureuse nouvelle. Je sors d'un rêve bien doux. J'ai revu celle que j'avais aimée transfigurée et radieuse. Le ciel s'est ouvert dans toute sa gloire, et j'y ai lu le mot « pardon » signé du sang de Jésus-Christ. Une étoile a brillé tout à coup et m'a révélé le secret du monde des mondes. « Hosanna, paix à la terre et gloire aux cieux !» Du sein des ténèbres muettes, deux notes ont résonné, l'une grave, l'autre aiguë. Et l'orbe éternel s'est mis à tourner aussitôt. Sois béni, ô première octave qui commença l'hymne divin. Du dimanche au dimanche, enlace tous les jours dans ton réseau magique. Les monts te chantent aux vallées, les sources aux rivières, les rivières aux fleuves et les fleuves à l'océan. L'air vibre, la lumière brise harmonieusement les fleurs naissantes. Un soupir, un frisson d'amour sort du sein gonflé de la terre. Et le cœur des astres se déroule dans l'infini. Il s'écarte et revient sur lui-même, se resserre et s'épanouit, et sème au loin les germes des créations nouvelles. Sur la cime d'un mont bleuâtre, une petite fleur est née. Ne m'oubliez pas. Le regard chatoyant d'une étoile s'est fixé un instant sur elle, et une réponse s'est fait entendre dans un doux langage étranger. Myosotis. Malheur à toi, dieu du Nord, qui brisa d'un coup de marteau la sainte table composée de sept métaux les plus précieux, car tu n'as pu briser la perle rose qui reposait au centre. Elle a rebondi sous le fer, et voici que nous nous sommes armés pour elle. Hosanna ! Le macrocosme, ou grand monde, a été construit par art cabalistique. Le microcosme, ou petit monde, et son image réfléchie dans tous les cœurs. La perle rose a été teinte du sang royal des Valkyries. Malheur à toi, dieu forgeron qui a voulu briser un monde. Cependant, le pardon du Christ
a été aussi prononcé pour toi.
Sois donc béni toi-même, ô Thor, le géant, le plus puissant des fils d'Odin. Sois béni dans Aïla, ta mère, car souvent le trépas est doux, et dans ton frère Loki, et dans ton chien Garnure. Le serpent qui entoure le monde est béni lui-même, car il relâche ses anneaux, et sa gueule béante aspire la fleur d'Angzoka, la fleur souffrée, la fleur éclatante du soleil. Que Dieu préserve le divin Balder, le fils d'Odin, et Freya, la belle.
Chapitre 8. Je me trouvais, en esprit, à Saardam, que j'ai visité l'année dernière. La neige couvrait la terre. Une toute petite fille marchait en glissant sur la terre durcie et se dirigeait, je crois, vers la maison de Pierre le Grand. Son profil majestueux avait quelque chose de bourbonien. Son cou, d'une éclatante blancheur, sortait à demi d'une palatine de plumes de cygne. De sa petite main rose, elle préservait du vent une lampe allumée et allait frapper à la porte verte de la maison, lorsqu'une chatte maigre, qui en sortait, s'embarrassa dans ses jambes et la fit tomber. « Tiens, ce n'est qu'un chat !» dit la petite fille en se relevant. « Un chat, c'est quelque chose !» répondit une voix douce. J'étais présent à cette scène et je portais sur mon bras un petit chat gris qui se mit à miauler. « C'est l'enfant de cette vieille fée !» dit la petite fille. Et elle entra dans la maison. Cette nuit, mon rêve s'est transporté d'abord à Vienne. On sait que sur chacune des places de cette ville sont élevées de grandes colonnes qu'on appelle « pardons ». Des nuages de marbre s'accumulent
en figurant l'ordre salomonique et supporte des globes où président, assises, des divinités. Tout à coup, aux merveilles, je me mis à songer à cette auguste sœur de l'empereur de Russie dont j'ai vu le palais impérial à Weimar. Une mélancolie pleine de douceur me fit voir les brumes colorées d'un paysage de Norvège éclairé d'un jour gris et doux. Les nuages devinrent transparents et je vis se creuser devant moi un abîme profond où s'engouffraient tumultueusement les flots de la Baltique glacée. Il semblait que le fleuve entier de la Neva, aux eaux bleues, dut s'engloutir dans cette fissure du globe. Les vaisseaux de Kronstadt et de Saint-Pétersbourg s'agitaient sur leurs ancres, prêts à se détacher et à disparaître dans le gouffre quand une lumière divine éclaira d'en haut cette scène de désolation. Sous le vif rayon qui perçait la brume, je vis apparaître aussitôt le rocher qui supporte la statue de Pierre le Grand. Au-dessus de ce solide piédestal vinrent se grouper des nuages qui s'élevaient jusqu'au zénith. Ils étaient chargés de figures radieuses et divines, parmi lesquelles on distinguait les deux Catherine et l'impératrice Sainte-Hélène, accompagnées des plus belles princesses de Moscovie et de Pologne. Leurs doux regards, dirigés vers la France, rapprochaient l'espace au moyen de longs télescopes de cristal. Je vis par là que notre patrie devenait l'arbitre de la querelle orientale et qu'elles en attendaient la solution. Mon rêve se termina par le doux espoir que la paix nous serait enfin donnée. C'est ainsi que je m'encourageais à une audacieuse tentative, je résolus de fixer le rêve et d'en connaître le secret. Pourquoi, me dis-je, ne point enfin forcer ces portes mystiques, armées de toute ma volonté et dominer mes sensations au lieu de les subir? N'est-il pas possible de dompter cette chimère attrayante et redoutable, d'imposer une règle à ces esprits des nuits qui se jouent de notre raison? Le sommeil occupe le tiers de notre vie. Il est la consolation des peines de nos journées ou la peine de leurs plaisirs. Mais je n'ai jamais éprouvé que le sommeil fût un repos. Après un engourdissement de quelques minutes, une vie nouvelle commence, affranchie des conditions du temps et de l'espace, et pareille sans doute à celle qui nous attend après la mort. Qui sait s'il n'existe pas un lien entre ces deux existences et s'il n'est pas possible à l'âme de le nouer dès à présent? Dès ce moment, je m'appliquai à chercher le sens de mes rêves, et cette inquiétude influa sur mes réflexions de l'état de veille. Je crus comprendre qu'il existait, entre le monde externe et le monde interne, un lien, que l'inattention ou le désordre d'esprit en faussait seuls les rapports apparents, et qu'ainsi s'expliquait la bizarrerie de certains tableaux semblables à ces reflets grimaçants d'objets réels qui s'agitent sur l'eau troublée. Telles étaient les inspirations de mes nuits. Mes journées se passaient doucement dans la compagnie des pauvres malades dont je m'étais fait des amis. La conscience que désormais j'étais purifié des fautes de ma vie passée me donnait des jouissances morales infinies. La certitude de l'immortalité et de la coexistence de toutes les personnes que j'avais aimées m'était arrivée matériellement, pour ainsi dire, et je bénissais l'âme fraternelle qui, du sein du désespoir, m'avait fait rentrer dans les voies lumineuses de la religion. Le pauvre garçon de qui la vie intelligente s'était si singulièrement retirée recevait des soins qui triomphaient peu à peu de sa torpeur. Ayant appris qu'il était né à la campagne, je passais des heures entières à lui chanter d'anciennes chansons de village, auxquelles je cherchais à donner l'expression la plus touchante. J'eus le bonheur de voir qu'il les entendait et qu'il répétait certaines parties de ses chants. Un jour, enfin, il ouvrit les yeux un seul instant, et je vis qu'ils étaient bleus comme ceux de l'esprit qui m'étaient apparus en rêve. Un matin, à quelques jours de là, il tint ses yeux grands ouverts et ne les ferma plus. Il se mit aussitôt à parler, mais seulement par intervalles, et me reconnut, me tutoyant et m'appelant frère. Cependant, il ne voulait pas davantage se résoudre à manger. Un jour, revenant du jardin, il me dit « J'ai soif ». J'allais lui chercher à boire. Le verre toucha ses lèvres sans qu'il pût avaler. « Pourquoi, lui dis-je, ne veux-tu pas manger et boire comme les autres ?»« C'est que je suis mort, me dit-il. J'ai été enterré dans tel cimetière, à telle place. » « Et maintenant, où crois-tu être ? En purgatoire, j'accomplis mon expiation. » Telles sont les idées bizarres que donnent ces sortes de maladies. Je reconnus en moi-même que je n'avais pas été loin d'une si étrange persuasion. Les soins que j'avais reçus m'avaient déjà rendu à l'affection de ma famille et de mes amis, et je pouvais juger plus sainement le monde d'illusions où j'avais quelque temps vécu. Toutefois, je me sens heureux des convictions que j'ai acquises, et je compare cette série d'épreuves que j'ai traversées à ce qui, pour les anciens, représentait l'idée d'une descente aux enfers. Ici se termine la seconde partie d'Aurélia de Gérard de Nerval.